Iowa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
19h30, en temps universel, Le Monde aujourd'hui, en direct de Washington. Au micro, Dilidico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce mercredi 27 septembre, l'ambassadeur français Sylvain Itté a finalement quitté Niamey ce matin en direction du Tchad après plusieurs semaines de bras de fer avec la junte. De passage à Luanda, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, critique les militaires qui renversent la volonté de leur peuple à la faveur de coups d'État. Les candidats républicains à la présidentielle tiennent ce soir leur deuxième débat sans Donald Trump. La crainte d'une fermeture du gouvernement fédéral plane à Washington alors que le Congrès est très divisé sur la question de l'aide à l'Ukraine. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. L'ambassadeur de France au Niger a quitté Niamey tôt ce matin, une exigence des militaires au pouvoir à laquelle Paris a fini par céder après plusieurs semaines de bras de fer. Jacques Aristide.
L'ambassadeur Sylvain Itté et ses collaborateurs ont quitté la capitale nigérienne vers 4 heures du matin à bord d'un avion parti en direction du Tchad. Dimanche soir, le chef de l'État français Emmanuel Macron avait déjà annoncé le retour à Paris de Sylvain Itté. Le régime nigérien, arrivé au pouvoir par un putsch le 26 juillet dernier, réclamait le départ du diplomate français depuis fin août. Il lui avait retiré son immunité et son visa diplomatique, mais Paris refusait jusqu'ici de le rappeler. Emmanuel Macron a également dit que les 1500 soldats français déployés au Niger dans la lutte anti-djihadiste quitteraient le pays d'ici la fin de l'année, une autre demande du régime de Niamey. D'après le président Macron, la France met ainsi fin à sa coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. La junte, qui a célébré ses annonces comme une nouvelle étape vers la souveraineté du Niger, veut toutefois que ce retrait se fasse dans un cadre à négocier et d'un commun accord pour une meilleure efficacité.
Le président Emmanuel Macron a réaffirmé mercredi son soutien au président Mohamed Bazoum quelques heures après le départ de Niamey de l'ambassadeur de France. Emmanuel Macron s'est entretenu avec Assoumi Massaoudou, ministre des Affaires étrangères du gouvernement renversé, a rapporté l'Élysée. Au Mali, la junte a évoqué mercredi la perte d'un lieutenant-colonel tué à bord de l'avion qui s'est écrasé samedi à Gao, faisant un nombre inconnu de victimes. Dans l'hommage au lieutenant-colonel Moussa Traoré, l'armée s'est gardée de préciser les circonstances de sa disparition et fait savoir qu'il est mort à 62 ans au cours du service aérien commandé. De passage à Luanda, la capitale angolaise, le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a affirmé que les États-Unis vont continuer de soutenir les armées dirigées par les civils, critiquant les militaires qui ont renversé la volonté de leur peuple à la faveur de coups d'État dans un discours sur les partenariats de sécurité des États-Unis en Afrique. Sa visite en Angola, une première pour un secrétaire américain à la Défense, constitue la troisième et dernière étape de sa tournée africaine après Djibouti et le Kenya. Les États-Unis ont annoncé hier soir suspendre une partie de leur aide au Gabon en réponse au coup d'État dans ce pays riche en pétrole qui était dirigé depuis plus de 55 ans par la famille Bongo. Claire Morin-Gibourg.
Le gouvernement américain suspend une partie de son aide au Gabon le temps d'évaluer l'intervention anticonstitutionnelle par des membres de l'armée, a indiqué dans un communiqué Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine. Il n'a pas précisé le montant de l'aide suspendue ni les programmes directement visés, mais cette décision ne concerne pas les opérations consulaires ou l'ambassade des États-Unis au Gabon. M. Blinken a déclaré que les opérations gouvernementales et diplomatiques en soutien aux citoyens américains sont maintenues. Les autorités américaines n'ont pas formellement parlé d'un coup d'État au Gabon, ce qui, d'après la loi américaine, obligerait Washington à suspendre leur aide indéfiniment. S'exprimant à la tribune de l'ONU la semaine dernière, le nouveau Premier ministre Raymond Dong Sima, nommé par le général Brice Oligui Nguema, avait estimé qu'il s'était agi d'un moindre mal pour éviter un embrasement face à un énième hold-up électoral.
Aussi, le Premier ministre de transition au Gabon a dit espérer qu'un dialogue national se tiendra entre avril et juin. La Namibie a suspendu l'importation de poulets et d'œufs en provenance de son voisin sud-africain, en proie à la plus grave épizootie de grippe aviaire de son histoire. L'importation et le transit de poulets vivants, de viande de volaille, d'œufs ainsi que de poussins en provenance d'Afrique du Sud seront suspendus jusqu'à nouvel ordre selon le gouvernement namibien.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les candidats républicains à la présidentielle de 2024 s'affronteront ce soir lors d'un second débat télévisé sans Donald Trump qui tient un discours dans le Michigan à la même heure. Nathalie Barge.
Sept candidats vont s'affronter à la bibliothèque Ronald Reagan de Simi Valley en Californie. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, accuse maintenant un retard de plus de 40 points face à Donald Trump. L'ancien vice-président Mike Pence, l'ex-ambassadrice à l'ONU Nikki Haley et l'entrepreneur Vivek Ramaswamy plafonnent autour de 5%. Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, et le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, sont aussi dans la course. Pour ce second débat, les candidats doivent avoir au moins 50 000 donateurs et au moins 3% dans les sondages. L'ancien président Donald Trump continue de dominer dans les sondages. Au moment du débat, il doit s'exprimer devant les ouvriers d'une usine de pièces détachées à Clinton Township, dans le Michigan, à une soixantaine de kilomètres de l'endroit où le président Joe Biden s'est affiché hier avec des grévistes de l'industrie automobile. M. Trump n'avait pas assisté non plus au premier débat le 23 août, préférant donner une interview au même moment.
Ici aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie, une quinzaine de jeunes ont été interpellés après des pillages de magasins en centre-ville à la suite d'un rassemblement contre des violences policières. Ce qui s'est passé ce soir est qu'une bande de criminels opportunistes ont profité d'une situation et tenté de détruire notre ville, a déclaré le commissaire de police John Stanford. Le Sénat américain a rédigé mardi une proposition de budget à court terme de dernière minute, même s'il y a peu de chances qu'elle soit approuvée par la Chambre des représentants. Le décompte a commencé pour éviter une paralysie des services de l'État fédéral le samedi à minuit. Les détails avec Rosine Munezero.
Peu avant la date limite du 30 septembre, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, et le chef de la minorité républicaine, Mitch McConnell, ont tous les deux approuvé ce projet qui permettrait au gouvernement de continuer à fonctionner jusqu'au 17 novembre. Rien n'indique pour l'instant que certains élus conservateurs de la Chambre des représentants qui ont déclenché l'épreuve de force vont approuver ce texte s'il est adopté par le Sénat. Si l'impasse persiste, tous les financements des services fédéraux seront coupés, le fameux shutdown. Cette crise pourrait surtout avoir des répercussions directes sur la guerre en Ukraine. La Maison-Blanche avait initialement réclamé que la loi de finances comprenne 24 milliards de dollars d'aide militaire et humanitaire pour Kiev. Mais une poignée d'élus républicains de la Chambre appelle à une cessation immédiate de l'aide à Kiev.
Les États-Unis ont annoncé intégrer Israël à leur programme d'exemption de visa, une décision longuement attendue par l'État hébreu. Cette décision intervient après un accord de réciprocité sur les exemptions de visa conclu en juillet et à l'issue d'une période réussie de mise à l'essai de plusieurs mois. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. Maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Nanit Talani.
Le Kenya est en pourparlers avec un consortium privé dirigé par le groupe JBM Manerals Engineering pour construire un barrage avec un volume estimé à 5,6 milliards de mètres cubes, suffisant pour irriguer plus de 161 000 hectares. Selon Bloomberg, High Ground Falls sera l'un des plus grands réservoirs d'eau d'Afrique. Le projet inclut aussi une centrale hydroélectrique de 1000 MW et devrait démarrer avant fin 2025. L'autorité tanzanienne de la santé des plantes et des pesticides a tué 5 millions d'oiseaux kilea par des pulvérisations aériennes dans la région de Manyara, dans le nord du pays, pour les empêcher de détruire des rizières. Environ 404 646 hectares de culture commerciale étaient menacés par les kilea, minuscules oiseaux à bec rouge, qui se déplacent en grande volée et sont connus pour ravager les cultures. La surveillance aérienne est maintenant en cours dans d'autres régions.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Yacouba, le Maroc va accueillir la CAN 2025. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, celle de 2027.
Oui, c'est ce qui est ressorti d'une réunion du comité exécutif de la CAF au Caire en Égypte. Depuis la capitale égyptienne, notre consultant sportif Amin Birouk revient sur le film de ses différentes attributions.
Le verdict attendu ? La victoire du Maroc pour l'organisation de la CAN 2025 après le retrait de l'Algérie et les retraits conjugués de la candidature commune Nigeria-Bénin et celle de la Zambie en début de matinée. Jamais le royaume chérifien n'a tremblé et jamais les représentants du royaume du Maroc, à savoir le président de la Fédération marocaine de football, Fouzir Kja, n'a douté de la victoire de son pays. Lui qui a mené le Maroc vers tant de batailles et qui espère voir son pays également remporter l'organisation de la Coupe du Monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Un verdict qui devrait être livré fin 2024. Et puis il y a eu la surprise de la candidature tripartite Kenya, Ouganda, Tanzanie, qui a obtenu la majorité des suffrages des sages du comité exécutif de la CAF au détriment de la candidature sénégalaise qui était partie un peu tard, de la candidature par ricochet du Nigeria et du Bénin qui s'est retirée de 2025 et qui s'est projetée vers 2027, et puis de ce combo entre le Botswana et la Zambie de toute dernière minute et qui semblait pouvoir obtenir une bonne partie des suffrages sous la pression de la zone COSAFA. En tout cas, on attendra peut-être la plus belle des CAN au Maroc en 2025, ce sera au mois de juillet, quelques jours après la fin de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu en juin 2025 aux États-Unis. Depuis le Caire, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, explique le choix du Maroc pour 2025 par la volonté du royaume chérifien de co-organiser le mondial en 2030 avec l'Espagne et le Portugal.
La principale raison d'attribuer l'organisation de la CAN 2025 au Maroc, c'est en raison de sa candidature pour la Coupe du Monde 2030. La décision qui a été prise aujourd'hui s'inscrit donc dans le contexte du retrait de tous les pays candidats et vise à se concentrer sur l'unité africaine et sur le développement et la croissance de l'Afrique.
Patrice Motsepe, président de la CAF, de son côté, le président de la Fédération kényane de football, Nick Mwandawa, se réjouit du retour de la CAN en Afrique de l'Est.
C'est fantastique que notre candidature l'ait remportée. L'Afrique de l'Est n'a pas accueilli la CAN depuis 1976. Je n'étais même pas né. Désormais, nous avons une grande responsabilité, beaucoup de travail pour convaincre la CAF d'amener la CAN en Afrique de l'Est en 2027.
Nick Mwendawa, président de la Fédération kényane de football.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Dilizico, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Au Burkina Faso, plusieurs centaines de partisans du président de transition, le capitaine Ibrahim Traoré, se sont rassemblés mardi soir dans le centre de la capitale Ouagadougou, après des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux faisant état de tensions au sein de l'exécutif. Au lendemain de ces manifestations, Mohamedou Oumfa a joint le correspondant de VOA Afrique sur place, Lamine Traoré, qui fait le point.
Oui, c'est une journée ordinaire ici hein, à Ouagadougou, le lendemain d'une nuit mouvementée, on le dira. Les services et les commerces ont fonctionné normalement. Il n'y a pas véritablement eu de rassemblement ce mercredi à Ouagadougou. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, c'est aussi le même constat ainsi que dans les autres villes de Burkina. À Ouagadougou, même s'il faut signaler quelques sporadiques klaxons de motos et des sons de vous et là, ça et là, de certains partisans du pouvoir, c'est une journée calme et tranquille ici.
Est-ce que les autorités de la transition réagissent aux rumeurs, à ces manifestations? Est-ce qu'on sait comment va le capitaine Ibrahim Traoré?
Oui, une façon voilée, on pourrait le dire, hein, le capitaine Ibrahim Traoré a dans son compte X, anciennement Twitter, fait une réaction. Il a rassuré de sa détermination à conduire la transition à bon port en dépit, dit-il, de l'adversité et des différentes manœuvres pour stopper la marche inexorable du pays vers une souveraineté assumée. Ma conviction se forge à chaque pas franchi dans la reconquête de notre cher patriote, a dit le président Traoré, et de remercier l'ensemble des Burkinabés qui assurent continuellement la veille citoyenne, gage d'une réussite collective, a-t-il terminé. Mamadou Oumfa, les rumeurs de coups de force se sont multipliées ces derniers temps au Burkina. Depuis septembre, trois militaires, des sous-officiers ont été inculpés, placés en détention préventive pour complot militaire, violation de consignes, complot contre la sûreté de l'État, association de malfaiteurs et mise en danger de la vie d'autrui, selon le parquet militaire.
Est-ce que la situation dans les casernes est calme? Est-ce qu'on sait s'il y a des mouvements de troupes dans les réseaux sociaux? On parlait par exemple de l'arrestation du chef d'état-major des armées. Qu'est-ce qu'il en est exactement, Lamine?
Oui, mais je pense que tout cela, il faudra mettre au compte des rumeurs pour le moment. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, donc on reste bien prudent sur donc toutes ces rumeurs qu'on voit. On ne peut rien pour le moment confirmer. Et vous savez, dans une situation pareille, il faut donc rester très prudent et s'en tenir qu'à l'officiel et s'en tenir qu'au fait. Et donc, pour l'heure, on ne peut rien confirmer.
Lamine Traoré, correspondant de VOA Afrique à Ouagadougou. Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM. La junte au Mali a annoncé lundi le report de la présidentielle prévue en février 2024. Les dates initialement prévues du 4 et 18 février 2024 connaîtront un léger report pour des raisons techniques, a fait savoir le porte-parole du gouvernement. Modibo Dembélé a recueilli la réaction de Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali.
On s'y attendait, parce que le gouvernement, il y a deux mois, a réuni les partis politiques pour leur demander leur avis par rapport aux élections, alors que le chronogramme avait déjà été établi et puis les choses allaient à leur rythme. Après, les partis ont donné leur opinion sur le fait qu'il faut essentiellement se focaliser sur le présidentiel. C'est que le gouvernement a accepté, c'est une bonne chose. Seulement, le plus important dans tout ça, c'est qu'on se parle, on se concerte. Nous avons tous quelques expériences en matière électorale. Nous demandons à nos autorités de travailler avec les partis politiques pour régler la question du NINA, du RAVEC et du fichier électoral, et régler la question des réformes. Ce sont les deux raisons que le gouvernement a avancées pour que le report puisse se faire en quelques semaines ou en un mois ou en deux mois, c'est ce que je pense. C'était très peu probable qu'on tienne le délai du 4 février pour les présidentielles. Aujourd'hui, regardons de l'avant et essayons de voir avec le gouvernement comment travailler afin que le léger report, le terme léger report, c'est le gouvernement qui l'a employé, puisse être vraiment un léger report et un dernier report.
Depuis un certain temps, nous assistons à la recrudescence des attaques. En tant qu'ancien Premier ministre qui est allé à Kidal, quelles sont vos propositions de solutions au niveau de Yelema par rapport à cette violence?
Nous appelons à la paix, à la stabilité et surtout aux discussions entre le gouvernement et les signataires de l'accord d'Alger. L'accord d'Alger est le cadre dans lequel nous avons obtenu le cessez-le-feu et le cadre dans lequel nous avons obtenu l'arrêt des belligérances entre les groupes armés et le gouvernement depuis 8 ans. Depuis le départ annoncé de la MINUSMA, on a dit attention, les départs de la MINUSMA vont laisser face à face les forces armées maliennes et les groupes signataires, il risque d'y avoir des confrontations, surtout par rapport aux emprises, aux camps que la MINUSMA occupe. Donc ça n'a pas été suivi d'effet et il s'est passé ce qui s'est passé à Ber et ensuite il y a eu des confrontations à Bamba, à Bourem et ensuite à Léré récemment. Il faut que le gouvernement d'une part et les groupes armés comprennent que quelle que soit la confrontation armée, une guerre mondiale ou une guerre locale, ça se termine toujours par des discussions. Donc, ça ne sert à rien de verser des sang des innocents maliens, de détruire des biens, de détruire le pays qui est déjà dans les difficultés pour ensuite s'asseoir et parler et discuter. Nous pensons qu'il faut que les Maliens, et c'est d'ailleurs ce que le gouvernement dit, c'est ce que les groupes armés disent, qu'on pratique et qu'on concrétise ce qu'on dit par s'asseoir et se parler. Comment le départ de la MINUSMA, de Kidal prochainement, d'ailleurs à Guelok et ailleurs, puisse se traduire par plutôt une pacification, une présence de nos forces armées, mais aussi une collaboration avec les groupes armés. Je suis sûr que si on s'assied, on se parle sincèrement, on peut trouver une solution à ces questions.
Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Les États-Unis ont annoncé hier soir suspendre une partie de leur aide au Gabon. Dans le cas du Niger, les Américains sont restés prudents dans leur attitude face aux nouvelles autorités militaires de Niamey. Toujours dans le cas du putsch nigérien, la France, elle, a dit appuyer la CEDEAO qui menace d'utiliser l'option militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel. Comment expliquer les approches américaines et françaises? Yacouba Ouédraogo a posé la question à Souleymane Bachir Diagne, professeur de philosophie à l'Université Columbia à New York.
Oui, c'est un principe et ce principe dépend précisément de l'expression coup d'État. Est-ce que cette expression est prononcée ou pas? Alors, selon que les États-Unis déclarent qu'il s'agit d'un coup d'État, leur principe leur fait automatiquement suspendre l'aide à cet État. Donc, en revanche, tant que l'expression de coup d'État n'est pas prononcée, dans ce cas-là, évidemment, il y a encore une ouverture possible sur ce plan.
Et justement, dans le cadre du Gabon, on n'a pas entendu les États-Unis qualifier la situation de coup d'État. Est-ce que cette suspension de l'aide signifie désormais qu'ils admettent que c'est un coup d'État?
C'est le cas. En effet, aujourd'hui, prendre la décision de suspendre l'aide, c'est une reconnaissance du fait que la situation ne peut pas porter d'autrement que celui de coup d'État. Parce qu'après tout, quelle est la définition d'un coup d'État? C'est la suspension de l'ordre constitutionnel.
On a vu les États-Unis assez prudents dans le cas du Niger. Les Français, justement, avaient dit vouloir appuyer la CEDEAO pour un coup de force Saint pour établir Bazoum dans ses fonctions, alors que les États-Unis appelaient beaucoup plus à la diplomatie. Comment expliquer les deux approches différentes des États-Unis et de la France dans le regard qu'ils portent sur les coups d'État?
Si on essaie de voir quel est le contraste et quelle est la différence entre les deux situations, force est de reconnaître que les États-Unis ont une base militaire au Niger, une base qui est importante pour la lutte dans laquelle ce pays est engagé. Et il y a une dose de réel politique dans la décision de ne pas prononcer l'expression de coup d'État, qui ferait encore une fois obligation d'une action de suspension de l'aide, etc. Et c'est sans doute la raison pour laquelle les États-Unis continuent à garder une attitude très prudente vis-à-vis du Niger. Effectivement, c'est un contraste avec la France, qui elle aussi est présente militairement, et la France qui est montée au créneau pour dénoncer le coup d'État, pour exiger dans un premier temps le rétablissement de l'ordre constitutionnel et le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions. Et puis maintenant, la France s'est rendue à l'évidence et a pris la décision de retirer ses troupes et de rappeler son ambassadeur.
Vous parliez de soldats américains au Niger. Ils sont autour de 1100 soldats. On sait aussi que pendant le coup d'État, eh bien, juste après, disons, les États-Unis ont envoyé leur ambassadrice à Niamey, même s'ils disent ne pas reconnaître les nouvelles autorités militaires. Comment comprendre cela?
Un coup d'État, par définition, installe toujours une situation de fait. Cela veut dire donc que le simple réalisme commande de parler aux autorités de fait qui sont installées, s'il y a des décisions à prendre, s'il y a des assurances à avoir concernant leur présence militaire. Donc, c'est une situation de fait dont il faut tenir compte, tout en faisant en sorte que ça ne soit pas une expression publique de la reconnaissance du coup d'État. Une gymnastique assez difficile à faire, mais c'est ce que font les États.
Souleymane Béchir Diagne, professeur de philosophie à l'Université Columbia à New York. Les candidats républicains à la présidence s'affrontent ce soir dans un nouveau débat télévisé sans Donald Trump, qui va tenir au même moment un discours dans le Michigan où se déroule une grève des travailleurs de l'automobile. Caroline Pressouti, correspondante de la VOA à Washington, nous présente ce débat en avant-première. Récit Alexandrine Rolognon.
C'est ici, dans un lieu sacré pour de nombreux républicains, que les principaux candidats à la présidence du DOP s'affronteront pour la deuxième fois. Il s'agit de la bibliothèque du 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, qui reste une icône pour les conservateurs du parti. Il a commencé sa vie publique en tant qu'acteur et démocrate libéral, avant de passer au parti républicain. Président populaire pendant deux mandats dans les années 80, il a défendu des valeurs conservatrices, prônant un gouvernement restreint, des impôts peu élevés et davantage de moyens pour la défense. Surnommé le grand communicateur, Reagan utilisait des mots simples et directs dont certains ont changé l'histoire.
Monsieur Gorbatchev, démolissez ce mur.
Craig Shirley, auteur de l'ouvrage Reagan.
Reagan a supplanté Abraham Lincoln en tant que républicain le plus populaire de l'histoire américaine.
Craig Shirley a travaillé pour la campagne de Reagan et à la Maison-Blanche et a écrit 6 livres sur lui. Il affirme que les candidats républicains actuels se compareront probablement à Reagan au cours du débat. Il s'agit notamment de l'ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, du sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, de l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley, de l'investisseur en biotechnologie Vivek Ramaswamy et de l'ancien vice-président Mike Pence.
Mike Pence évoque certainement les positions reaganesques sur certaines questions, tout comme Nikki Haley et Vivek Ramaswamy.
Lors du premier débat, Ramaswamy a affirmé que la Chine était plus préoccupante que l'invasion de l'Ukraine par la Russie. L'ancienne ambassadrice des Nations Unies, Nikki Haley, a mis en doute l'expérience de son jeune rival en matière de politique étrangère. Reagan, qui était à l'époque le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis, a plaisanté sur son âge lors d'un débat.
Je ne vais pas exploiter à des fins politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire.
Une fois de plus,
Le principal candidat républicain, l'ancien président Donald Trump, ne participera pas à ce débat. En août, Nikki Haley l'a qualifié d'homme politique le plus détesté des États-Unis. Christie et Pence ont demandé sa disqualification. Mais Ramaswamy a qualifié Donald Trump de meilleur président du XXIe siècle. Mercredi soir, les candidats à la présidence tenteront de convaincre les électeurs qu'ils peuvent reconduire le Parti républicain à la Maison-Blanche. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi Le Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Dili Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.